Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je m'appelle Cécile Tovel et depuis 2012, j'entreprends en couple avec mon mari Antoine. Après la mini-série sur les 5 couples emblématiques du monde de l'art, je reviens aux interviews de couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple, vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux, ce podcast est créé pour vous. Et si vous appréciez cet épisode, partagez-le à un couple qu'il pourrait inspirer ou laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aide énormément à faire connaître ces épisodes. Cet épisode est un peu particulier puisque c'est un épisode spécial podcaston. D'ailleurs, saviez-vous que la force d'un épisode de podcast, c'est la qualité d'écoute et sa durée ? Et donc l'idée, c'est d'en faire profiter des associations. En mars 2023, je participais à la première édition du podcaston en interviewant le couple Jérôme et Emmanuel Stiwi qui ont fondé le Village des Enfants Extraordinaires. Nous étions plus de 300 podcasteurs à parler d'une action caritative. Et cette année encore, nous tendons le micro à celles et ceux qui s'engagent pour autrui. Mais revenons à l'épisode du jour. Laissez-moi vous présenter Léo et Chloé Rémy-Olivier. Ce sont deux jeunes voyageurs et créateurs de contenu sur Instagram et YouTube. Ils sont connus sous le nom de Rémy en famille sur les réseaux sociaux. Ce couple a fondé l'association Sourire d'enfance il y a un an lors d'un séjour au Laos. L'association soutient les enfants dans leur quotidien. Éducation, alimentation et bien-être. Aujourd'hui, elle agit au Laos et au Népal grâce à des parrainages et des levées de fonds. Le couple se lance dans une nouvelle étape de leur projet. Il s'expatrie au Laos et est en train de créer des voyages à impact positif pour financer les projets de l'association. C'est donc un projet à deux faces. D'un côté, l'association Sourire d'enfance, et de l'autre, les voyages avec Sourire du Laos. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé et Léo.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast Pop-In. Est-ce que vous pourriez me donner 3 mots qui en diraient long sur votre conjoint ou conjointe?
Tu commences?
J'y vais. Alors, pour définir Léo, j'utiliserai 3 adjectifs. Je dirais persévérant, je dirais rayonnant et je dirais surtout surprenant.
Super.
Chloé, c'est quelqu'un qui est vachement aimante. Enfin, là, c'est quelque chose moi, qui est ressorti directement. Elle a beaucoup, beaucoup d'empathie envers les gens, surtout dans le travail qu'elle fait aujourd'hui. Et elle est très, très, très impliquée. C'est parfois à l'extrême, mais toujours très, très impliquée. Quand il y a quelque chose qui lui plaît ou qui lui tient à cœur, elle y va toujours, toujours à fond.
Merci à tous les deux pour ces partages. D'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés?
Alors, on s'est rencontrés il y a bientôt 6 ans à la Croix-Rouge. Moi, j'étais bénévole seule et Léo était bénévole en tant que président de son association humanitaire dans son école d'ingénieur. Et au départ, on s'est rencontrés et moi, je voulais le brancher avec ma meilleure amie. Et finalement, il s'est intéressé à moi.
Je connais ça.
Voilà.
Super. Alors, revenons à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous donne la pêche? C'est ma question signature. Qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin à l'un et à l'autre?
Moi, clairement, c'est les projets qu'on a en cours en ce moment. Principalement pour moi, la création de l'agence de voyage, parce que elle a permis de financer l'association. J'ai toujours voulu entreprendre une entreprise. Donc, en fait, je peux un peu tout faire en même temps. Donc, ça me donne vraiment, vraiment envie. Puis, il y a tout à créer, donc c'est trop trop intéressant, c'est un vrai plaisir au quotidien de trouver un petit peu de temps pour pouvoir faire ça à chaque fois que je peux.
Très bien.
Et pour moi, on n'est pas du tout là-dedans, pour moi c'est la musique. Le matin, de la musique et hop, ça nous lance et je trouve que c'est la meilleure façon de commencer une journée.
Parfait. Comment vous vous répartissez les rôles dans votre travail ou alors comment vous comptez les répartir puisqu'on est quand même plutôt sur un lancement de projet?
Ben, en termes de répartition, aujourd'hui, Chloé, elle travaille majoritairement sur l'association. Moi, je vais venir l'aider sur certains moments où elle va avoir besoin d'aide pour l'AG, pour faire des choix, pour certains partenariats. Parce que malgré tout, j'en parle à tout le monde de l'association. Donc, je trouve également des fois des gens qui sont intéressés pour participer au projet. Donc, je suis à ses côtés dans ces projets-là et je la soutiens, même si ça reste un projet sur lequel elle est beaucoup dessus, elle, en tout cas opérationnellement, parce que bah, elle a aussi besoin de créer, de grandir sur ces choses-là. Donc moi, je ne veux pas prendre trop de place là-dedans. J'ai déjà fait ce truc-là avant en tant que président d'association pendant 2 ans, ce qui était génial, un vrai parcours qui était super. Mais donc là, je laisse plus la place à Chloé. Et du coup, moi, de mon côté, bah, je prends plutôt part sur l'entreprise, même si Chloé, bah, elle est vachement à fond dedans également. Elle m'aide aussi beaucoup sur tout ça. Disons qu'on... Les tâches sont mélangées. Disons qu'à chaque fois, on s'aide l'un et l'autre dessus, mais c'est vrai qu'on, pour l'instant, c'est plus l'association, moi
Il
plus
est beaucoup,
l'entreprise.
il est beaucoup dans le conseil, du coup, au niveau de l'association et tout ce qui va être le réseau. Parce qu'il est
Tout à
beaucoup
fait.
plus habilité que moi à parler aux autres et du coup à vendre un petit peu tout ce qu'on peut faire.
Il va avoir ce côté commercial
Oui, c'est
qui va
ça.
être important pour le développement et de l'entreprise et de l'association. Donc,
C'est ça.
voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît à chacun dans vos missions?
Alors, pour Léo, ce qui lui plaît le plus, c'est d'être un peu ce conseiller, de donner, de guider. Il adore ça. Et il aime bien aussi l'idée de pouvoir soutenir. Mais par souvenir aussi par rapport à l'entreprise qui va soutenir l'association. Voilà, c'est ce côté un petit peu d'être à côté du projet. Et pour moi, bah, c'est vraiment d'aider les autres au quotidien, de pouvoir m'impliquer auprès des enfants directement et de les suivre, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Très bien, on rentre dans le concret.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que vous avez dû affronter?
Oui, bah le pro... enfin, de toute façon, c'est celui qui est venu directement. Quand on était donc au Laos, pendant un voyage donc qu'on a réalisé avant de revenir en France, là, on a rencontré plein d'enfants dans un des villages où on est passé. Et en fait, il y a 2 enfants, Mone et Sean, qui nous ont donné envie de créer cette association, puisque c'est des enfants qui étaient en grande difficulté, mais qui étaient hyper attachants. Et en fait, au cours de l'été, fin de l'été, il y a un des 2 enfants, Mone, qui est décédé. Il a été emporté dans l'eau, parce qu'il y a des grandes cascades et sur la période de mousson, donc il y a les pluies torrentielles, et l'enfant a été emporté. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a vachement affectés et qui a aussi accéléré notre processus de réflexion sur le fait de repartir au Laos et sur quelle échéance. Et au final, bah, on a décidé de partir en mars parce que bah, on souhaitait être sur place. Et en fait, ça fait aussi partie de l'association de mettre en place des lieux pour les enfants pour pouvoir jouer, grandir, apprendre en sécurité, surtout sur cette période de mousson qui peut être dangereuse. Et donc bah, voilà, ça fait partie du coup des raisons qui fait que bah, là, on part aussi vite parce qu'on est revenu en mars l'année dernière. Et 1 an après, on repart pour par contre s'installer définitivement cette fois-ci.
Ça a été un peu un électrochoc du coup.
Oui.
Alors on va repartir un petit peu sur du positif avec peut-être votre plus grande fierté avec cette association. Voilà aussi, ou une autre fierté si vous voulez nous partager.
Ouais. Bah, notre plus grande fierté, ça reste cette croissance gigantesque en 1 an. Il y a 1 an, du coup, on était au Laos dans ce petit village. Je le créais toute seule sur ma tablette avec la connexion 4G un petit peu compliquée au Laos. Et là, 1 an plus tard, on est à plus de 50 parrainages sur les 80 enfants à parrainer dans le village. Et ça continue à augmenter chaque semaine. On reçoit des messages, au moins 2 messages par semaine pour des parrainages,
Sans aller les chercher.
sans aller les
Sans
chercher.
aller les chercher.
Et on a beaucoup de personnes qui, autour, nous proposent des projets pour nous soutenir. Et vraiment, ça, on est hyper fiers.
Ouais.
On ne s'attendait pas vraiment à ce que ça
Mmh.
fasse autant de bruit et que ça puisse autant aider les enfants.
Est-ce que vous voulez bien préciser ce qu'est un parrainage comme ça, si certains
Oui.
auditeurs veulent parrainer également, ils sauront plus concrètement en quoi ça consiste.
Alors, un parrainage, donc, ça coûte 110 euros et ça comprend la scolarisation de l'enfant. Donc, en fait, on paye l'école, on paye toutes les fournitures, les uniformes, voilà, tout le nécessaire pour l'école. Ça comprend aussi un repas pour le midi, du lundi au vendredi. Et ça comprend s'il y a besoin de transport, parce que l'école secondaire, par exemple, est dans un autre village, donc il y a besoin de transport, voilà, ça comprend ça aussi. Et ça comprend aussi s'ils ont des besoins de vêtements, des difficultés autres, voilà, qu'on soit là si besoin. Et le but du parrainage, c'est qu'il y a un échange directement avec le parrain, et que nous, on passe aussi un suivi, et qu'on garantisse leur scolarisation, parce que beaucoup d'enfants quittent l'école avant 10 ans, et donc ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
Et c'est, en final, c'est génial parce que, on a commencé avec 5-6 parents et là, effectivement, d'avoir autant de personnes, c'est fou. Et c'est vrai qu'on a, en fait, c'est juste du bouche à oreille. Beaucoup de gens qui sont également passés par ce village-là, au final, entendent parler de nous. Et en fait, bah, comme ils ont vu les enfants qui ont passé du temps avec eux, bah, derrière, effectivement, ils ont envie de continuer à les aider. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les choses grandissent aussi vite. Même peut-être un peu vite, mais parce qu'on doit absorber tout ça, on doit se réadapter, on ne fonctionne pas à la même échelle. Mais c'est clair qu'au vu du nombre d'enfants que ça aide, ouais, il n'y a aucun regret, quoi. C'est super.
Merci. Et l'association, vous avez les déductions d'impôts ou du coup ce n'est pas.
On ne l'a pas encore parce que du coup, il faut attendre les 3 ans de l'association
Mmh.
pour cette autorisation-là. Reste que les 110 euros, c'est 110 euros à l'année. Donc, ça reste un montant quand même qui est accessible et ça fait partie des objectifs de l'association. C'est que ça reste accessible et que n'importe qui puisse aider.
Oui, c'est bien de préciser que c'est à l'année parce qu'on pourrait
Oui.
imaginer qu'il y a ce besoin, vu tout ce que vous
Exactement.
avez cité, que c'était par mois. Donc,
Oui.
finalement, ça reste accessible pour les parrains.
Oui.
Et on a, avec cette somme-là, beaucoup d'effets. C'est ce qu'on voit avec
C'est
ce que
ça.
vous avez dit. Donc,
Ouais. Et puis il y a une autre façon de se financer. Nous, je sais qu'on a fait l'année dernière de levée de fonds.
Oui.
On a fait deux fois appel à du crowdfunding pour certains projets. Et pour les gens qui ne souhaitent pas de parrainer, mais qui préfèrent donner 5, 6 euros, 2 euros, 1 euro, ben voilà, c'est le moyen de pouvoir le faire. On a même eu 1 000 euros à la dernière cagnotte où une personne qui est passée, qui lui restait de l'argent de son voyage autour du monde, s'est dit, bah, tiens, je préfère le donner à un projet qui nous tenait à cœur. Et ben voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment ces deux moyens de se financer là. Et ça permet déjà de faire des choses énormes, quoi.
Oui, c'est superbe. Merci, merci beaucoup. Vous travaillez donc en couple. Alors, est-ce que vous arrivez à équilibrer votre vie personnelle, de couple et votre vie professionnelle?
Non, pas du tout. Alors, on va dire qu'on essaye, on fait en sorte de se trouver un petit peu de temps, mais pour autant, c'est très très compliqué parce qu'on a une chaîne YouTube, une page Instagram où on publie régulièrement, l'association, l'entreprise qui est en train de se créer, notre travail actuellement, un déménagement en ce moment à prévoir, une expatriation, une création d'entreprise, notre chien à sortir. Ouais, c'est un peu. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, plus des amis, la famille, etc. On arrive à se garder du temps, mais non, pour le moment, on n'a pas d'équilibre. Et c'est aussi une des raisons qui fait qu'on va s'expatrier, c'est qu'on aura plus de temps, le rythme sera plus calme là-bas, et on y gagnera clairement en qualité de vie. Donc c'est vrai que on a pris des décisions pour, mais actuellement pas trop.
Oui, parce qu'aujourd'hui, donc pendant toute cette année où vous êtes revenu, vous avez eu donc un travail. Vous pouvez peut-être le préciser, puisque là, on a l'impression que vous faites que l'association
Oui.
et l'entreprise, là. Mais en fait, non, il y avait aussi cette année avec ce travail. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots avant qu'on passe à la suite?
Alors bon, actuellement, du coup, on est éducateur pour l'association qui s'appelle Happy Insertion. C'est une association qui s'occupe d'enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc là, on est rattaché à un foyer et on s'occupe de 6 adolescents.
Ouais, c'est ça. Ça fait depuis novembre qu'on fait ça, et après, on a enchaîné d'autres travails. Moi, de base, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, RSE, où je gère les impacts négatifs sur l'environnement, sur le social et sur la société. Et donc, j'ai travaillé également pendant un certain temps sur ce métier-là, avant de commencer à la pige.
Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes allé en Laos, pas en avion.
On a essayé au maximum de ne pas y aller
En
collectivement.
partie, en tout cas,
Ouais.
vous avez réussi à trouver d'autres moyens.
Oui.
C'était une sacrée bataille. Parce qu'à la base, on ne voulait vraiment pas prendre du tout d'avion. Et le Covid a tellement mis à mal, enfin, le Covid et les conflits armés, guerre civile, ont mis les choses à mal pour nous. Parce qu'on a réussi à aller jusqu'en Turquie sans avion. Et en fait, après, à partir de la Turquie, on était bloqué parce que il y avait une reprise du conflit en Arménie, Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh. En Iran, il y avait les manifestations pour Mahsa Amini, parce que c'était le moment où elle venait de se faire tuer. Donc, impossible de passer par là. Donc là, on avait dû prendre un avion, on était forcé et on s'est retrouvé sur le continent, du côté Népal-Inde. Et ensuite, pareil, de l'Inde, on voulait passer en bateau. Avant, c'était possible en train par le Myanmar, mais depuis. Il y a eu je sais plus, c'est une guerre civile où ouais, ils sont en train de se battre en ce moment entre les civils, l'État, et une prise de pouvoir, je crois, de la junte militaire. Et en fait, le passage par le bateau était plus possible avec le Covid. Tout était bloqué, les compagnies avaient complètement arrêté de faire des trajets pour des touristes. Donc on était encore dans l'obligation de prendre un avion. Mais après, de la Thaïlande, on s'est débrouillé et ça se faisait très très bien. Au final, c'était vachement plus simple là-bas
Que de traverser l'Europe.
que de traverser l'Europe. Ouais. Plus confortable, plus organisé en termes de bus et ouais, c'était plus simple.
Ouais, c'est vraiment avec quand on veut traverser comme vous l'avez fait autrement qu'en avion, on se rend vraiment compte des conflits et ouais, ça devient beaucoup, malheureusement, beaucoup plus concret
Oui,
qu'à
tout à
travers
fait.
les informations qu'on voit à la télévision.
Ouais. Mais puis c'est surtout que ce n'était pas le cas avant. L'Asie, c'était quelque chose d'assez simple. On pouvait passer par la Russie avec le Transsibérien, parce que c'était notre première option. Mais c'est pareil, on était bloqué pour la guerre en Ukraine. Et en fait, l'Asie, c'était très simple. Et aujourd'hui, c'est devenu très, très compliqué, un peu comme on peut se retrouver aujourd'hui avec l'Afrique ou le Moyen-Orient à traverser, où c'est beaucoup plus difficile. Avant, on pouvait tout faire en train. Il n'y avait aucun souci. Et pas de chance, on est parti au mauvais moment. Mais ça fait partie de la vie, quoi, du voyage, le fait qu'il y ait des petites difficultés comme ça. D'avance.
Merci beaucoup. Est-ce que, comme vous avez envie de passer un petit peu plus de temps ensemble, est-ce que vous auriez quand même des astuces ou des méthodes que vous allez du coup faire quand vous serez au Laos pour garder du temps pour votre couple?
Alors, on essaye tout de même d'en discuter, en fait. La plupart du temps, c'est aussi de se dire, bah, là, je ne suis pas capable de passer du temps avec toi, je suis trop fatiguée ou j'ai trop de choses à faire. Et à d'autres moments, de se dire, bah, là, j'ai besoin que tu coupes et que tu sois vraiment avec moi et qu'on prenne du temps. Et c'est vrai que se le dire, c'est déjà important et il faut réussir à le faire. Et ensuite, bah, souvent, on sort, on coupe nos téléphones, on va se balader en nature et ça nous permet aussi de déconnecter, du coup, de rester dans notre bulle qu'à nous deux et loin des projets, même si c'est vrai que rapidement, on a envie d'en parler et d'avancer sur le sujet, mais on essaye.
Ouais, il y a une certaine discipline à avoir.
Oui.
Hein. Parce que, vu tous les trucs dont on a parlé, on a toujours envie de dire, ah, en fait, je t'ai pas dit ça, en fait, je t'ai pas dit ça, ah, il y a ça, faut qu'on fasse ça. Et ouais, en vrai, on y arrive. On arrive à se bloquer du temps.
Pas autant qu'on voudrait, mais
Ouais.
c'est parce qu'on choisit aussi de mener plein de projets en même temps et donc
Oui.
c'est un choix.
Très bien. Justement, est-ce que vous menez des projets séparément ou peut-être des activités?
Alors, on n'a pas vraiment de projet individuel, parce que comme on l'a dit, on a plein de projets communs. On a quand même une façon de faire, c'est que la plupart de nos projets communs, on les scinde en deux. Donc, chacun s'occupe d'une partie ou d'une autre. Par exemple, Léo, il s'occupe quand même beaucoup plus de la chaîne YouTube et moi, beaucoup plus de la page Instagram. C'est des choses qu'on se divise. Et ensuite, Léo, il a plus d'activités en dehors que moi.
Ben moi, je fais de l'escalade et j'ai pris des cours de chant là cette année. Parce que j'ai besoin aussi de couper et d'avoir mes petits trucs à moi. Mais ouais, c'est vrai que ben, là, même ça, j'ai du mal à le sauvegarder. Je suis à chaque fois obligé de décaler mes séances ou pas pouvoir être aussi assidu que je le voudrais. Mais par contre, c'est hyper important d'avoir ces séances, enfin, d'avoir des choses à faire en dehors et de pouvoir couper, avoir un autre environnement. Ben, c'est agréable aussi. Ça fait du bien.
Est-ce que vous pourriez me citer une œuvre d'art qui vous inspire?
Alors là, la question était, est-ce que c'est une œuvre d'art en commun ou pas? Parce que
Ah.
en commun, c'est impossible. On est trop différents, Chloé et moi, pour arriver à aimer les mêmes choses. C'est la difficulté quand on doit choisir un film, quand on doit écouter la musique. Quand on doit trouver une activité. Pour autant, moi personnellement, en musique classique, j'aime beaucoup les Quatre Saisons de Vivaldi. C'est une musique qui me suit depuis que je suis tout petit, donc je l'écoute tout le temps. Même ça m'a suivi quand j'étais en classe préparatoire, quand je travaille, quand j'ai besoin de dormir. Donc c'est quelque chose que j'écoute tout le temps. Et toi, je sais plus, c'était quoi?
Ouais, c'est un film qui s'appelle Écrire pour exister, qui est un film qui retrace le parcours d'une professeure aux États-Unis qui aide des enfants dans un quartier difficile et qui est vraiment un film qui me suit depuis plusieurs années et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup.
Merci pour ces partages. Et alors, pour finir sur une touche de légèreté, est-ce que vous auriez une anecdote rigolote sur votre couple à nous raconter?
Alors l'anecdote du coup elle concerne notre voyage. Pour du coup raconter un petit peu tout ça, on était en Turquie à Istanbul et on avait fait la demande pour un e-visa en Inde parce que on peut faire la demande par internet. Léo a reçu la réponse en même pas 24 heures et moi au bout de 10 jours j'avais toujours pas la réponse. Et on s'est dit bon tant pis, on va à l'aéroport quand même. Notre avion il est prévu aujourd'hui, peut-être que je vais avoir la réponse du e-visa dans la journée. On y va. Sauf que 4 heures avant le vol, j'avais toujours pas de réponse. Et on s'est posé la question, comment on fait? Est-ce que Léo il part avant? Est-ce que on part en même temps? Est-ce qu'on annule tout? Voilà, c'était la grande réflexion. Donc on s'est dit, bon, tant pis, on annule le vol, on perdra un petit peu d'argent, mais c'est pas très grave. Et j'ai dit à Léo, c'est trop compliqué de venir jusqu'à l'aéroport d'Istanbul, il faut prendre je sais pas combien de bus, on a traversé pendant la moitié de la journée pour arriver à l'aéroport. C'est bon, maintenant on choisit une autre destination, maintenant qu'on est là. On prend un endroit où on n'a pas besoin de visa, et puis on choisit. Et c'est qu'en fait, comme ça qu'on est arrivé au Népal, en quelques heures, on ne connaissait rien du tout du pays. Alors d'habitude, on fait quelques recherches, on apprend quelques mots. Et finalement, on a découvert le Népal et on a adoré. On y a passé un mois et on a rencontré les locaux et c'était vraiment un pays magnifique. Et ça, c'est vraiment notre anecdote. Et les gens prennent appui souvent là-dessus parce qu'en fait, on prend souvent des décisions spontanées comme ça sur les ressentis qu'on a et on se lance et on y va.
C'était une des meilleures décisions du voyage. Parce
Ah.
que le fait d'avoir rien prévu, c'était une vraie aventure et c'était super. Et l'anecdote rigolote, c'est que Chloé a eu son visa le jour d'après.
Super.
C'est pas grave, on a pu l'utiliser et aller en Inde après. Mais par contre, effectivement, on était quand même un peu dégoûté que notre organisation ait été un peu décalée.
Mais vous êtes quand même resté un mois au Népal, donc c'est vraiment que ça vous a plu, en effet.
Mais le pays, les gens sont géniaux.
Ouais.
Enfin, les personnes font le pays, moi j'ai le sentiment, et clairement, c'est un pays qui est hyper marquant. Ah oui, j'en ai presque les larmes aux yeux à vous en parler parce qu'on a rencontré des gens qui étaient super et avec qui on a envie de repasser du temps ensemble avec eux. Ouais. Et puis même, les paysages sont superbes, la culture est super différente. Enfin, je pense que c'est le premier moment où on a eu un vrai dépaysement, où il y a eu un vrai changement de civilisation et c'est hyper riche. C'est hyper riche de changer à ce point-là de repères et d'apprendre, de découvrir des façons de vivre, de manger, d'échanger, d'avoir des relations humaines, enfin, c'était vraiment cool.
Et puis, je suis pas sûre qu'on l'aurait fait si on était allé directement en Inde. Parce que l'Inde est tellement grand qu'on aurait passé beaucoup de temps à visiter, qu'on aurait peut-être fait l'impasse sur le Népal.
Bon, bah, magnifique alors.
Oui.
Belle
Ah
opportunité.
ouais.
Merci beaucoup à tous les deux. J'ai beaucoup apprécié ce moment et je vous souhaite un très beau voyage, une très belle installation au Laos. Et puis, j'ai hâte que vous nous donniez des nouvelles de l'association. Et
Avec plaisir. Merci
merci
beaucoup.
d'avoir répondu présent pour pouvoir justement faire ce podcaston avec vous. Voilà. À
Merci à vous, passez
bientôt.
une bonne journée. Au revoir.
Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage d'ailleurs à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'excellents podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Sourire d'enfance. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité. À bientôt sur Popin!